Cinéma, cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, le code Hays, l'autocensure dans le cinéma américain. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Le code Hays, alors de quoi s'agit-il? C'est H-A-Y-S, c'est un code qui s'est appliqué dans le cinéma américain depuis les années 30 jusqu'au milieu des années 60. Donc c'est une autocensure. Alors un mot sur la question de la censure au cinéma. Donc la censure au cinéma touche en fait tous les pays. Alors on ne va pas évoquer tous les pays du monde, mais on peut relever en fait trois situations. Il y a le fait que dans certains États, le cinéma, c'est la propagande. Donc l'ex-URSS, tout le bloc de l'Est, certains États autoritaires encore aujourd'hui. Il y a un cinéma au service de l'État. Les réalisateurs, les acteurs sont quasiment des salariés de l'État et font ce que veut l'État. Il y a la situation opposée, c'est-à-dire le libéralisme absolu. Chacun fait ce qui lui plaît. Les cinéastes tournent comme ils le veulent. Et il n'y aurait pas de censure. Bon, en réalité, c'est une situation extrême qui n'existe pas toujours. Et la situation intermédiaire, c'est il y a une liberté, mais avec un contrôle de l'État. Donc, censure ou pas censure, par exemple, prenons le cas de la France. Est-ce qu'en France, il y a une liberté d'expression cinématographique? Est-ce qu'il n'y a pas de censure? Eh bien, en réalité, de manière étonnante, en France, il y a une forme de censure. Cela veut dire qu'il y a un visa pour les films qui vont sortir, qui vont être distribués. Si un film n'a pas ce visa, il ne peut pas être distribué. Et qui attribue ce visa? C'est le ministre de la Culture, avec cependant un organe de conseil qui est la commission de classification des œuvres cinématographiques. Mais comme cette commission et ce ministre interviennent avant, il y a en pratique, juridiquement, une censure. Il aurait fallu intervenir après, comme pour la presse en 1881, on peut faire des recours après, mais pas avant. Donc il y a en France une absence de liberté d'expression cinématographique au plan juridique, même si au plan pratique, on voit que tous les films sortent. Alors, aux États-Unis, que se passe-t-il? En réalité, il y a non pas une censure, mais une autocensure. Que veut-on dire par là? Cela veut dire qu'on ne veut pas voir l'État intervenir, mais on va, en quelque sorte, remplacer l'État avec une autocensure. Ce sont donc les acteurs du cinéma qui vont appliquer cette censure. Alors là, l'association centrale, à partir des années 30, c'est une association des producteurs et distributeurs qui va mettre en place ce code. Le producteur, il faut le rappeler aux États-Unis, est maître absolument du film. Il le possède, il peut faire ce qu'il veut. Là encore, opposition avec la France, où il y a ce qu'on appelle un droit moral sur l'œuvre, où là, le réalisateur doit être consulté si on doit, par exemple, coloriser un film, ou le couper, ou le monter de manière différente. Donc, le producteur fait ce qu'il veut, et ce sont les producteurs qui ont mis en place ce mécanisme de l'autocensure. Alors, c'est vrai que les versions producteur, version réalisateur, ça peut donner, quelques années après la sortie, une version longue, que ce soit par exemple La Porte du Paradis ou Les Sept Samouraïs, distribuer Les Sept Samouraïs dans les années 50, 1h30, et par la suite, véritable version 3h30. Donc, vous voyez la différence. Donc, pour le système américain, ce sont les producteurs et les distributeurs qui ont formé une commission et qui vont faire élaborer le code Hays. Alors, le code Hays remet en cause toute la liberté qui pouvait exister au cinéma, puisque ce code Hays va, en quelque sorte, moraliser le cinéma. On va voir tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de règles à respecter. Parce que, avant le code Hays, il y avait des films muets, il y avait des films dans lesquels, bon, des films parlants jusqu'à partir de 1927, et ces films vont montrer la violence, vont montrer la sexualité, et ils vont aller parfois assez loin. On peut citer un extrait d'un film d'Eric von Stroheim qui s'appelle La Reine Kelly. Alors là, c'est assez surprenant. L'actrice principale, qui est jouée par Gloria Swanson, voit un prince à cheval. Et elle est tellement impressionnée que, je cite exactement le film, la scène est assez cocasse, qu'elle a sa culotte qui lui tombe sur les pieds. Les personnages vont rire, À ce moment-là, elle jette la culotte au visage du prince et celui-ci la glisse dans une poche de sa selle. Donc vous voyez que ça va quand même assez loin. Mais on va voir l'industrie du cinéma chasser Stroheim, qui ne aura plus que des rôles parfois en France beaucoup plus tard, on est 40, mais qui voit cesser son rôle de réalisateur. On peut préciser que le producteur à l'époque, il s'appelle Joseph Kennedy, et c'est le père de ce Kennedy que vous connaissez qui sera président. Et je dirais que le fils va marcher sur les traces du père, puisque Joseph Kennedy, je dirais avant MeToo, ça pouvait passer, après MeToo, il serait déjà en prison. Donc, les films montrent des éléments qui peuvent porter atteinte à la morale, à ce qu'on peut considérer comme le bon ordre. Alors, parmi les films qui ne posent pas problème, mais des films connus qui sont de Chaplin, qui veut écarter ou se moquer du parlant et va faire les temps modernes qui est à 90% muet, alors qu'on est au milieu des années 30. Donc, une musique classique, c'est les temps modernes où l'on voit chanter Chaplin à la fin du film.
J'ai notre socafore, j'ai notre citavore, j'ai la coulette et la toile. La spinage au la bouchon, si grette pote bello, si raki spacaletto, j'ai la coulette et la toile. Signora Pilassina, voulez-vous la teximite? Le zionta sous la cita. Tula, 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 wa. C'est mon tia si l'amore, le son tia s'entrevore. La zone comme ça, j'ai la peau de sa dilatoire. J'ai notre solamine, j'ai notre socancine. Je laisse trop sa vite. Je la tasse à filatoire. C'est mon très seul centre, tu vas seul l'autre ventre. Les anches si catonta.
Alors, Hollywood, on considère qu'il y a une forme de dépravation dans les films, mais il y a aussi des affaires qui vont choquer, même si finalement il n'y a pas de condamnation. C'est ce qu'on appelle l'affaire Arbuckle. Arbuckle, c'est Fatty Arbuckle. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il a un physique important, Il est gros et il est très, très, très célèbre à cette époque-là. On est du côté de Buster Keaton, de Chaplin, etc. Et Arbuckle a tourné avec certains, d'ailleurs. Il va être pris dans une affaire qui est la suivante. Donc, il y a une soirée qu'on peut qualifier de débauche ou d'orgie. Et Arbuckle y participe. Il va être accusé d'avoir violé et tué une comédienne. Alors, le comique est poursuivi. Il a comme défense qu'en réalité, les douleurs, puis la mort qui est arrivée quatre jours après, finalement, ce n'est pas lui qui est responsable, mais elle était malade, puisqu'elle meurt d'une péritonite. Donc, le procès a lieu, et on peut dire que Roscoe Fatia Arbuckle est vraiment stigmatisé. Hein, c'est la situation où il n'est pas condamné, il n'y a pas de décision judiciaire, mais il sera écarté du cinéma. Il sera, encore une fois, stigmatisé par la profession. Et le procès qui a lieu, où il y a plus exactement, il y a trois procès. Mais dans le dernier, les experts médicaux considèrent que la mort n'a pas été due à une relation sexuelle. Donc, il va être acquitté. Mais cette affaire va noircir Hollywood et donner cette réputation sulfureuse qui va marquer l'époque. Donc, le Code Hays va apparaître dans ce contexte-là, c'est-à-dire que l'association des producteurs et distributeurs décide de moraliser le cinéma. Et le Code Hays est mis en place par le sénateur Hays. Il doit mettre en place un contenu des films qui soit acceptable, qui soit moral. Donc, on doit intervenir sur tous les films pour donner des recommandations, entre guillemets, pour donner des conseils, ou plus exactement pour forcer à censurer des scènes qui paraîtraient choquantes. Donc, le code est vraiment une autocensure de la part de ces producteurs et distributeurs. Et il y avait une crainte que les États ou les villes mettent en place un système de censure. Donc, les membres de l'association anticipent et veulent limiter cela. Alors, le problème, en particulier la nudité dans les films, doit conduire à certaines réflexions. En effet, à la fin du XIXe siècle, quand les films Lumière sont créés, il y avait déjà des procédés comme celui d'Edison et l'idée que le cinéma avait un but scientifique. Donc vous avez des films qui sont tournés pour examiner le vol des oiseaux, pour examiner la manière dont un cheval va courir. Et parfois, on voit un homme nu, mais qui marche, qui n'a aucun aspect pornographique. Donc, l'idée des Frères Lumière, d'ailleurs, c'était de faire des reportages ou des films familiaux, et pas du tout de faire des films au sens divertissement. C'est Méliès qui va intervenir dans ce domaine. Donc, les nudités, la nudité, c'est d'un côté l'aspect scientifique, mais aussi, on tourne déjà des films pornographiques. Hein, pour être distribué dans les maisons closes, il y a déjà ce cinéma pornographique. Mais ce n'est pas celui que visent les censeurs, puisqu'il est limité à des lieux précis et on ne va pas autoréguler dans ce domaine. Donc le but de ce code, c'est une moralisation, c'est de vouloir empêcher ceux qui critiquent Hollywood d'avoir raison. Donc on a des films qui seront marqués par une absence de nudité, des scènes qui ne seraient pas provocantes. Je vais venir tout à l'heure sur le contenu du code lui-même. On a des actrices qui, à l'époque, dans les années 30, sont vraiment marquées comme Marilyn Monroe par une démonstration du sexe, en quelque sorte. Donc, c'est Mae West, c'est Jean Harlow. Mae West qui a des dialogues qui sont souvent un petit peu... je dirais amusant ou rigolo, c'est-à-dire que elle dit notamment passez me voir un de ces soirs, donc c'est ça qui peut être déjà interprété comme quelque chose qui ne doit pas être fait, ou alors mais qu'est-ce que vous avez dans votre poche, ça paraît impressionnant, donc là aussi sous-entendu que le codex ne peut pas laisser passer. Donc le but c'est bien cela, c'est d'empêcher donc qu'il y ait une situation du cinéma qui serait une atteinte à la morale et critiquable. Alors, il y a un film récent qui s'est intéressé à cette époque avec une dimension hystérique et critique, avec Brad Pitt, c'est Babylone, donc qui est sorti en 2022. Babylone, donc voilà, voilà la musique de Babylone. Babylone plutôt 2023 que 2022. Alors venons-en à ce code. Alors ce code est rédigé au début des années 30 et va s'appliquer aussi à ce moment-là. Alors il y a une sorte de préambule au code. Vous allez voir qu'il y a une certaine hypocrisie. Alors voilà ce que dit le préambule. Les producteurs de films prennent acte de l'immense confiance que les peuples du monde leur ont accordée en faisant du cinéma une forme universelle de divertissement. Et ils sont conscients de la responsabilité que leur impose cette confiance, d'autant plus grande que l'art et le divertissement influencent la vie des nations. Et c'est ça qui est intéressant. De ce fait, même s'ils jugent que les films relèvent essentiellement du divertissement et qu'ils n'ont pas vocation explicite d'éducation ou de propagande, ils sont conscients que le cinéma, dans sa fonction même de divertir, peut favoriser le progrès spirituel et moral d'une nation, la qualité de sa vie sociale et la correction de sa pensée. Alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'ils disent « Les films relèvent essentiellement du divertissement. » Bon, mais essentiellement, ça veut dire qu'il y a des éléments différents. Donc, favoriser le progrès spirituel et moral d'une nation, c'est quand même aussi pas mal du tout. Alors, il y a trois principes généraux qui apparaissent donc au début de ce code. Encore une fois, ce code, en fait, c'est pas un code qui va faire 100 pages. Ça fait 3 ou 4 pages, en réalité. Donc, principes généraux. Premièrement, on ne fera aucun film susceptible de rabaisser les valeurs morales de ceux qui les verront. On n'incitera donc jamais le public à sympathiser avec les crimes, les délits, le mal ou le péché. Le mal ou le péché, là ça devient intéressant. Deuxièmement, les films montreront des comportements décents, seulement dépendant des exigences de l'intrigue et du divertissement. Et troisièmement, la loi naturelle ou humaine ne sera jamais ridiculisée. Aucune sympathie ne sera suscitée à l'égard de ceux qui l'enfreignent. Donc, vous voyez que déjà, ces trois principes vont conditionner la suite avec plusieurs éléments qui découlent en réalité de cette volonté d'encadrer, de moraliser le cinéma. Alors, quelques applications particulières. Les violations de la loi, on ne les représentera jamais d'une façon qui pourrait les rendre sympathiques. Le meurtre. La façon de commettre un meurtre sera toujours montrée en sorte de ne pas susciter son imitation. Voilà, donc c'est une volonté surtout de ne pas montrer quelque chose qui pourrait être repris. Donc les meurtres, il vaut mieux éviter, mais surtout, ils doivent être dénoncés en quelque sorte. Alors, les méthodes criminelles ne seront pas présentées en détail. Donc, pas de description des techniques utilisées pour le vol, le cambriolage, le forçage d'un coffre-fort, le dynamitage d'une voie ferrée. Donc, vous voyez, on met un petit peu tout là-dedans. L'usage des armes à feu doit être limité à ce qui est absolument requis par le scénario. Alors ça, c'est un petit peu étonnant pour la raison que les armes à feu, elles sont fondamentalement utilisées dans le cinéma et dans la vie quotidienne. Vous savez que depuis des années, on veut appliquer une situation plus rigoureuse pour les armes, et ça n'a jamais été fait. Alors, les relations sexuelles, le caractère sacré de l'institution du mariage et du foyer domestique sera préservé. Les films veilleront à ne pas laisser entendre que les formes grossières de la sexualité sont des comportements acceptables ou courants. Donc, qu'est-ce qui est visé ici ? L'adultère. L'adultère ne doit pas être explicité. Les films ne doivent pas lui trouver de justification ni le rendre attrayant aux yeux du public. Vous voyez, la moralisation, elle est fortement présente. Pas de scène de passion amoureuse. Hein, on ne doit pas montrer des baisers trop passionnés, des étreintes lascives, des poses et des gestes subjectifs. La séduction ou le viol. On ne peut pas en faire des sujets de comédie. L'évocation des perversions sexuelles est interdite. Perversion sexuelle, ce serait effectivement l'adultère, l'homosexualité, etc. La question du métissage est interdite. Qu'est-ce que c'est que la question du métissage ? C'est les relations sexuelles entre les races blanches et noires. Donc, pas de possibilité. Il faut attendre les années 60 pour qu'on voit, notamment dans un film, Jim Brown et Raquel Welch, qui est une relation, alors que jusque-là, ce n'était pas possible. La vulgarité, le traitement des sujets déplaisants ou dégoûtants doit être soumis aux critères du bon goût et respecter les sensibilités du public. Pas d'obscénité, pas de blasphème. Alors le blasphème, on dit, il ne faut pas utiliser les jurons God, Lord, Jésus, Christ, El, Down, God et SOB. Alors SOB, c'est Son of Beach en fait. Donc le cinéma ne doit pas comporter cela. Alors une anecdote à ce sujet, vous connaissez, il était une fois, plutôt Autant d'emporte le vent. La fin de Autant d'emporte le vent, après les relations assez amoureuses entre Scarlett et Rhett Butler, finit par une séparation. Et la dernière phrase, c'est Clark Gable qui dit à celle dont il était amoureux, mais cet amour a posé problème, « I don't give a damn ». Qu'est-ce que ça veut dire « I don't give a damn » ? Ça veut dire « je m'en fous ». Eh bien, pour cette réplique, les censeurs, les auto-censeurs ont voulu faire couper cette réplique. Et le producteur David Ozeldzik a insisté pour arriver à le mettre en place. Donc, vous voyez jusqu'où on va, question de Son of Beach. Bon. Alors, blasphème et montrer la famille de manière correcte. Donc, on ne doit pas porter atteinte à l'image de la famille. Alors là, vous avez une forme qui est assez intéressante. La présentation de chambre à coucher doit être dirigée par le bon goût et la délicatesse. Ça veut dire que dans un couple, alors regardez les films américains, je l'ai dit à plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah oui, effectivement, tu as raison. » Regardez les lits jumeaux. Dans tous les couples américains, il y a des lits jumeaux. Il ne faut pas risquer de montrer la possibilité d'une sexualité, même entre le mari et la femme. Donc ça va assez loin. Alors le costume, pas de nudité complète, qu'elle soit effective ou en silhouette, pas de scène de déshabillage. Les costumes des danseurs et danseuses doivent être conçus pour ne pas exposer la nudité, donc pas de voile transparent. Alors pour la religion, bien sûr, aucun film ne ridiculisera la religion. Vous savez que les Américains sont attachés à cela, enfin des discours God bless you, les billets américains, etc. etc. Donc, surtout, ne pas toucher à la religion. Les ministres du culte ne peuvent pas être représentés comme des personnages comiques ou scélérats. Et les cérémonies de toutes les religions doivent être traitées avec attention et respect. Alors, il y a aussi le sentiment national, toujours présenter le drapeau de façon respectueuse, pas de critique des personnalités, des institutions, de l'histoire. Donc, les principes du code sont assez clairs. Et enfin, il y a les sujets repoussants, pas de méthode d'interrogation brutale et torture, pas de violence, pas de marquage au fer rouge des hommes ou des animaux, alors ça c'est un petit peu particulier, le commerce des femmes ou les femmes faisant le commerce de la vertu à écarter, et même alors les opérations chirurgicales. Donc voilà à peu près, pour aller vite, le contenu du code, et ce code va faire l'objet de détournements. Je veux dire par là qu'il a souvent été relevé par les spécialistes du cinéma, les historiens du cinéma, que un certain nombre de réalisateurs, comme Billy Wilder, Ernst Lubitsch ou Hitchcock, vont essayer de détourner et de faire repasser des éléments comme des éléments anodins, alors qu'ils sont assez explicites ou métaphoriques. Alors je prends un exemple ici, c'est celui de la mort aux trousses ou la fin du film. On a les deux héros qui sont en train de s'embrasser, et puis on voit un train qui rentre dans un tunnel, c'est la dernière image. Et Hitchcock a développé des remarques sur son cinéma avec François Truffaut. Ce sont les premiers grands entretiens du cinéma dans les années 60. Il va dire effectivement qu'elle était, c'était une image symbolique. Alors, écoutons avec plaisir La mort aux trousses. Sa musique est assez originale et vraiment tout à fait bonne. Avant de revenir à Hitchcock, je vous donne un dernier exemple de ce que le code Hays a pu donner. C'est Tarzan. Alors Tarzan, le premier Tarzan, c'est Johnny Westmuller, qui était un ancien champion de natation et qui va faire le premier film au début des années 30. Le réalisateur, c'est John Farrow. L'actrice qui fait Jane sera Maureen Sullivan. Et d'ailleurs, on peut préciser que tous les deux, la comédienne et le réalisateur, auront Mia Farrow, hein, John Farrow, Mia Farrow. Et pour revenir à ce film, on a Tarzan qui est avec une sorte de slip de bain tout à fait réduit. Et Jane est aussi plutôt dévêtue. Qu'est-ce qui va se passer au fil du temps? Eh bien, les vêtements vont s'allonger. Ça veut dire que sur une quinzaine d'années, on fait des Tarzan entre 1930 et 1945. Et le slip de bain de Tarzan va progressivement s'allonger jusqu'à devenir une sorte de short anglais qui tombe sous le genou. Donc une peau de bête aussi qui va entourer son torse. Donc la volonté de ne pas montrer des nudités, etc. est tout à fait transparente. Alors on a aussi quelque chose d'original, ils vont avoir un fils, Tarzan et Jane. Sauf que le fils, enfin, tombe du ciel, c'est un accident d'avion, et voilà qu'apparaît Boyd. Pourquoi ça? Mais bien sûr, on ne peut pas suggérer une relation sexuelle entre Tarzan et Jane. C'est pas possible, c'est exclu. Donc, on a un enfant qui vient, non pas dans les choux, mais qui vient du ciel. Voilà. Alors, pour revenir à Hitchcock, il a procédé dans certains films à une manière de détourner le code Hays. Dans Les Enchaînés, par exemple, en 1946, il fait s'embrasser les deux héros, Ingrid Bergman et Cary Grant, en les faisant aussi dialoguer, ce qui fait que le baiser est entrecoupé de dialogues, donc ça peut passer par rapport au code Hays. Alors, il y a aussi le signon de Vertigo. Alors, Vertigo, c'est un film dans lequel James Stewart va voir celle qui pense être sa femme se tuer, et il va retrouver, quelques temps après, une autre femme qui serait son sosie, mais en fait qui en réalité est celle-là. Et Hitchcock montre dans une longue scène comment James Stewart va refaire le chignon de l'héroïne, et il va expliquer qu'au fur et à mesure qu'il fait le chignon, en réalité, il lui enlève sa petite culotte. Donc c'est Hitchcock, encore une fois, qui dit ça dans l'interprétation. Dans Pas de printemps pour Marnie, on a Sean Connery qui va être passionné, obsédé par l'héroïne. Et Hitchcock dit qu'il voudrait effectivement la posséder comme elle a volé, la posséder devant le coffre. Voilà. Alors vous avez une image aussi très célèbre, c'est Gilda. Gilda, on a une scène de striptease avec des gants assez hauts au-dessus du genou, au-dessus du coude. Et donc elle va enlever ses gants. Billy Wilder, que je citais, pensait à certains lames chauds qui va être réalisé dans la deuxième moitié des années 50. Quel est le sujet? Jack Lemmon et Tony Curtis assistent à un meurtre des bandits qui vont tuer d'autres gangsters, et ils vont se travestir en femmes, et ce travestissement va les conduire à jouer dans un orchestre de femmes. Et une des membres de l'orchestre, c'est Marilyn Monroe, qui va avoir une relation amoureuse avec Tony Curtis, mais ce sera un petit peu difficile pour lui, qui va changer de costume, réapparaître, revenir. Et la fin surtout de ce film a donné lieu à une réplique assez impressionnante. On a un milliardaire qui est joué par Joey Brown qui tombe amoureux de Jack Lemmon en femme. Et à la fin, il part sur un bateau et il lui explique qu'il est amoureux, etc. Et Jack Lemmon enlève sa perruque et dit « Voilà, je suis un garçon. » Et le milliardaire répond « Personne n'est parfait. » Donc ce « Personne n'est parfait », c'est une des répliques des finales les plus originales, et qui montre quand même une homosexualité qui est tout à fait présente. Et ce qui, à l'époque, avait quand même permis de détourner une censure, puisque ça n'avait pas été coupé. Donc, je vais rester sur cette dernière réplique, qui est donc la fin de « Some like it hot », certains l'aiment chaud, « Personne n'est parfait ». C'était Cinéma Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Léo Touroult. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de l'association Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à tous et à toutes.